Voilà, donc vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, radio RFPP. Un petit souci de créativité. Non pas que je n'en ai point eu, mais j'en ai eu trop, m'a fait traîner. C'est vrai que là, nous sommes le lendemain de mai et nous sommes 50 ans après mai 68. Et donc... On a estimé qu'il fallait ici écouter un peu le temps qui passait, hein, revenir un peu sur des événements comme cela, et faire un peu... on en est où aujourd'hui? C'est ça, on en est où aujourd'hui? Eh ben en fait, on en est à un très fort désir de grève. On le voit dans le rail où il n'arrête pas, à chaque fois les médias proclament la grève terminée, et ben ça redémarre. Et il y a des difficultés bien sûr, mais le combat continue. Et ça se voit dans plein d'autres secteurs comme nous allons le voir. Et nous allons commencer évidemment à parler du rail, mais d'abord, qu'est-ce qui fait rouler les trains? Ça c'est une bonne question ça. Qu'est-ce qui fait rouler les trains? Bon bah il faudra répondre à cette question avant que l'émission poursuive, donc vous pouvez appeler à l'antenne. Dont je me rappelle plus le numéro. Non, bon, qu'est-ce qui fait rouler les trains? La première réponse, c'est le nucléaire. Et nous allons donc savoir qu'est-ce qui fait rouler le nucléaire, qui fait rouler les trains.
Bonjour, est-ce que tu peux te présenter?
Alors, Gilles Reynaud, j'ai 50 ans. Ça fait 27 ans que je travaille dans l'industrie du nucléaire et je suis un salarié de la sous-traitance.
Donc, la sous-traitance dans le nucléaire, qu'est-ce qu'on sous-traite dans le nucléaire alors?
Alors aujourd'hui, il y a plus de 80% des activités qui sont sous-traitées par tous les exploitants, que ce soit EDF, Areva ou le CEA, à des entreprises extérieures. Donc ça leur permet de faire du dumping social, parce que ce sont des appels d'offres où les entreprises répondent, et toutes les entreprises n'ont pas les mêmes garanties, les mêmes statuts en termes de conventions collectives.
D'accord. Donc cette sous-traitance permet d'écraser les coûts, c'est ça?
Exactement.
Hein. C'est un peu le thème aujourd'hui, hein. C'est ça, les états généraux de la santé au travail.
Alors bien sûr, cette baisse des coûts se répercute sur des conditions de travail, sur des salariés, des opérateurs, des opératrices, et donc les risques psychosociaux, les TMS, les accidents du travail, les expositions dans l'industrie du nucléaire sont conséquentes, hein, les rayonnements ionisants, l'amiante, les produits, les agents chimiques et dangereux, les rayonnements neutroniques, enfin, nous avons une jolie panoplie d'expositions.
Ouais, c'est ça. En plus de l'exposition nucléaire, il y a exactement tous les autres risques dont on a parlé aujourd'hui, c'est
voilà,
ça?
Les risques après classiques d'industrie, hein, les risques chimiques, incendies, enfin...
Et donc la sous-traitance, elle s'exerce jusqu'à quel niveau? Alors ça descend assez bas, c'est ça? On peut même faire appel à des intérimaires dans le nucléaire?
Bien évidemment. Aujourd'hui, EDF a un gros besoin de faire des travaux pour mettre aux normes ses installations. Donc ça s'appelle le grand carénage. Donc pour nous, c'est le grand carnage, parce qu'il y a 5 fois plus d'activité que sur les arrêts que l'on faisait jusqu'à présent. Donc il faut 5 fois plus de personnel. Sauf qu'aujourd'hui, il y a du chômage dans notre pays. On n'est pas capable de former des gens correctement pour leur transmettre un savoir. Et donc, on prend de l'intérimaire, du CDD, pour que la personne soit opérationnelle rapidement et surtout qu'elle exécute.
On dirait qu'ils ont pas trop réfléchi, parce qu'ils appliquent exactement la technique qu'on peut trouver dans l'automobile, dans d'autres industries, mais ça gomme complètement les spécificités du nucléaire.
Alors oui, voilà, on s'oriente vers une industrie aujourd'hui low cost, et c'est pour ça que je veux interpeller, faire réfléchir sur cette situation dans notre pays aujourd'hui où on a des exploitants nucléaires qui sont aux abois financièrement, et derrière les sacrifices, ça va être encore une fois de plus sur les salariés, certainement le contribuable aussi, mais on ne peut pas accepter qu'une industrie soit low cost, pas le nucléaire. On n'a pas le droit de faire ça par rapport aux populations et aux salariés sur ces installations.
D'accord. Donc en fait, pour exprimer ça, tu es venu aux états généraux de la santé au travail hier et aujourd'hui, c'est ça?
Oui, c'est ça. Quand j'ai su qu'il y avait ces 2 journées de travail, de réflexion sur la santé au travail, on est à notre endroit, quoi. Enfin, c'est vraiment formidable d'être ici. Il y a des gens, des interventions très enrichissantes. Et puis la santé au travail, c'est capital. Si nos copains, nos copines qui travaillent sur les sites nucléaires ne sont pas sereins sur leur casque de chantier et dans leurs chaussures de sécurité, on va avoir de grosses déconvenues. Et ça se cloisonnera peut-être pas qu'au périmètre de l'installation nucléaire, du site, ça sera peut-être aussi dans les populations avoisinantes. Donc,
parce que là, on en parle de la santé des salariés, mais c'est vrai qu'avec le nucléaire, il y a le risque accru que, à force de faire n'importe quoi, boum.
L'accident nucléaire est plausible en France. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Oui, c'est envisageable. Alors peut-être pas un tsunami, ce qui s'est passé à Fukushima, mais un tremblement de terre, pourquoi pas. Il y a des installations qui sont sur des zones sismiques. Mais surtout, moi, c'est de parler de métier que nous faisons. Nous faisons de la maintenance, du démantèlement. Et dites-vous bien que si on a des salariés aujourd'hui qui ne sont pas bien dans leur tête parce qu'ils sont harcelés...
Ah. Oui, tout à fait. Donc les salariés sont harcelés. Les intérimaires, on a compris. C'est les intérimaires qui font rouler les sous-traitants. Et qu'est-ce qu'ils font rouler les sous-traitants ? Les sous-traitants font rouler le nucléaire. Et qu'est-ce qu'il fait rouler le nucléaire ? Le nucléaire fait rouler le train. Bon, bah tout roule alors, hein. Ah, bah non, tout roule pas en fait. C'est que ce que vient de nous dire le monsieur, c'est qu'il y a des salariés là-dedans. Et dans les trains, il y a des salariés aussi dans les trains.
Ok, donc camarade Bruno, présente-toi.
Donc moi je m'appelle Bruno Poncé, je suis membre du bureau fédéral de Sudrail. Mm-hmm. Aujourd'hui je suis à Chambéry afin de soutenir la collègue de l'inspection du travail qui est au tribunal, mm-hmm. avec le collègue qui a été le lanceur d'alerte avec elle, qui est aussi incriminé.
Ouais. Et vous avez ramené du monde, le rail, vous êtes venus un peu nombreux, j'ai vu, il y avait pas mal de chasubles vertes.
Ouais, on est quelques-uns, là je pense qu'on est pas loin d'une quarantaine et... Et pour nous, c'était important de soutenir aussi d'autres collègues qui, en plus, aujourd'hui, ne font que leur travail et qui sont au tribunal d'avoir fait que leur travail.
Mmh. Et donc c'était important. Alors, vous avez beaucoup de relations avec l'inspection du travail dans le rail ou je sais pas,
Souvent, oui, parce que nous, malheureusement, aujourd'hui, quand en CHSCT ou dans d'autres instances, ça ne fonctionne pas, on a souvent recours à l'inspection du travail. Et moi j'ai des collègues qui sont très pointus là-dedans parce que malheureusement les instances représentatives du personnel ne fonctionnant de moins en moins, on est obligé de passer de plus en plus par l'inspection du travail. Et effectivement, on est vraiment en contact des inspecteurs du travail qui ont fait du bon boulot en règle générale afin d'avoir un réel dialogue avec l'entreprise quand à un moment donné l'entreprise durcit le ton et veut passer en force sur des sujets très importants comme des restructurations et des licenciements.
Oui, alors qu'est-ce que vous ressentez, comment vous percevez en fait la difficulté dans laquelle a été placée la collègue? Est-ce que vous voyez ce genre de situation, genre une intervention auprès de la SNCF par exemple, de l'inspection du travail qui tourne de la même manière? Vous pensez que c'est possible?
Le problème c'est que là dernièrement on a vu même mieux que ça, on a vu quand même la ministre qui a forcé le licenciement du collègue de Air France.
Ouais.
Nous on se dit qu'un jour ça va nous arriver aussi parce que nous actuellement on a depuis la dernière grève du mois de... Enfin nous on est en grève comme beaucoup de personnes depuis le 31 mars,
mm-hmm.
enfin même depuis le 9 mars et on a beaucoup de dossiers nous en ce moment en instance, alors soit au tribunal, soit dans des conseils de discipline afin de souvent des radiations.
Ouais.
On a au moins 10 collègues en ce moment qui sont sur la sellette.
Ouais.
Et on se demande si un jour l'inspection du travail au regard des éléments protège le salarié et que à un moment donné la ministre du travail ou quelqu'un d'autre vienne et intervienne pour lui licencier. Donc effectivement aujourd'hui tout ça nous concerne et ça concerne tout le monde.
Ouais.
De toute façon comme le combat contre la loi travail concerne tous les travailleurs en France, le combat pour Laura et le collègue de Tefal concerne tous les Français.
Mm-hmm.
Malheureusement aujourd'hui être lanceur d'alerte on n'est pas protégé et on l'a vu dans des dossiers aussi financiers, donc ça devrait être protégé.
Il y a une montée de la répression dans le rail. Là. Toi, tu confirmes que chez vous, là...
Ah oui, on n'a jamais vu ça. Là, on sort des grèves, on a des... par exemple, à chaque manifestation, on voit des managers, des directeurs de l'entreprise qui sortent avec des GoPro pour prendre les gens en photo, qui surveillent sur les Facebook les images des manifestations pour savoir si les gens n'ont pas fait quelque chose, pour reconnaître des gens qui auraient fait, soi-disant, quelque chose de criminel ou de délictuel et après pour après porter plainte. On a des collègues qui se retrouvent au tribunal ou ne serait-ce que convoqués au commissariat parce qu'ils ont fait une manifestation, ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. On a défendu un collègue début août à Amiens qui s'est retrouvé au tribunal parce qu'ils avaient brûlé des pneus sur la place de la gare avec des jeunes étudiants. Et ils sont cinq au tribunal directement parce qu'ils ont été pris par les caméras de surveillance.
D'accord. Donc pour les prétextes les plus légers en fait.
Ben oui, et puis aujourd'hui, et en plus, et tout le monde trouve ça normal. C'est-à-dire que maintenant l'entreprise s'appuie sur des passages au pénal pour après dire regardez il a fait ça, donc maintenant on va en conseil des disciplines. Alors et les sanctions souvent c'est régulièrement demander la radiation.
Ouais.
Et là cette année on a au moins 10 dossiers nous. où on est en instance là et on est inquiet parce qu'aujourd'hui l'entreprise n'entend rien du tout. Hein. Ouais. On sait que ça ira à l'aspect de travail parce qu'une conseil de discipline, il y a 3 employés et 3 patrons. Et donc si c'est 3 contre 3, à un moment donné après il faut que ça soit statué par le directeur de région, le directeur de national, et s'il veut pas et si ça va pas, ça va à l'inspection du travail. D'accord. Donc aujourd'hui c'est remettre aussi à l'inspection du travail un travail, ça, c'est lui donner du boulot encore plus, ouais. pour à un moment donné avoir le droit de manifester, le droit d'être en grève, c'est quand même un droit constitutionnel, hein.
Donc il y a un lien direct entre le fait de tirer les tapis sous les pieds de l'inspection du travail et vous savez que ça va avoir ça, au bout du bout. Si l'inspection du travail est fragilisée, c'est votre dernière
oui.
C'est
ça. Ah mais évidemment, parce qu'aujourd'hui l'inspection du travail, vu les dossiers qui sont amenés par la direction, l'inspection du travail dans son âme et conscience, souvent défend le salarié en disant mais attendez, là c'est trop, c'est n'importe quoi. Mais si aujourd'hui l'inspection du travail, ben on est en train de leur faire comprendre qu'ils ont intérêt à bien écouter les patrons et à faire exactement comme on leur dit, ben, évidemment, les salariés sont plutôt protégés. Mmh. Mais et puis pas seulement des délégués syndicaux, quoi que ce soit. Aucun salarié ne va être protégé bientôt. Ouais. Ni les travailleurs handicapés, parce qu'on a même des problèmes, nous, avec des collègues en travailleurs handicapés, qu'on veut envoyer à l'inspection du travail. Donc, on a vraiment, vraiment des gros soucis. Pour la représentation syndicale, le gros problème aujourd'hui, c'est que la plupart des gens pensent qu'un délégué syndical, c'est comme un homme politique. Il est payé pour faire ça. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, on voit bien le discours qui est passé depuis les dernières grèves, c'est que les délégués syndicaux sont protégés et que c'est des privilégiés. Mais on n'est pas des privilégiés, on est des travailleurs qui avons pris un mandat pour défendre nos collègues. Aujourd'hui, on se rend compte que on est ciblé afin qu'à un moment donné, pour faire comprendre aux gens que être délégué syndical, c'est pas bien. Alors on est ciblé et puis après, qui va défendre les collègues? L'inspection du travail, elle est ciblée et nous, les délégués syndicaux, on est ciblés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quel gouvernement va faire passer des lois ignominieuses et pour après faire quoi? Pour après pouvoir faire exactement plus qu'est-ce qu'ils veulent, casser le CDI, casser les contrats de travail pour mettre tout le monde dans des services, dans des contrats précaires. Afin de pouvoir prendre tout le monde à la gorge.
Oui, donc Laura, elle a été sanctionnée pour avoir fait son métier. Donc c'est pas juste un plaisir qu'elle s'est fait. Elle a l'amour du métier bien fait. Et c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans le rail, en fait. La bataille syndicale, c'est aussi une bataille pour défendre son métier, pour défendre le job.
Ouais, effectivement, parce que les cheminots, mais on est 170 000 cheminots, mais tous les cheminots aiment leur entreprise. Peut-être ceux qui ne l'aiment pas, c'est peut-être ceux qui la dirigent, malheureusement. Mais nous, on l'aime, notre entreprise. Donc souvent, on défend nos collègues. On est là pour défendre les collègues. On est là pour aussi protéger nos collègues, mais aussi là, on protège notre entreprise. Moi, je fais partie d'une branche, c'est le fret. Moi, le fret, ils l'ont démonté au fur et à mesure. On était 13 000 employés il y a 7-8 ans, on n'est plus que 6 500. Et aujourd'hui, dans les 6 500, il y a de moins en moins de personnes à la production parce que il n'y a pas de politique réelle de ferroviaire en France. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, bien sûr, nous, on se retrouve incriminés dans des situations parce qu'on défend notre boîte. Dire qu'on aime cette boîte. Enfin, moi, je pense que la plupart des gens qui travaillent dans des entreprises, encore plus dans des grosses boîtes, mais tout le monde aime sa boîte parce qu'à un moment donné, son travail permet de nous nourrir. Puis en même temps, nous, c'est une entreprise historique. Enfin, il y a quelque chose. Quand on voit la collègue qui se retrouve au tribunal parce qu'elle a fait juste son boulot et qu'elle est inspectée du travail, c'est normal qu'elle fasse son taf et qu'elle note quand il y a des choses qui lui plaisent pas et qui sont pas normales, qui sont pas légales. Ben, on se dit que nous, ça nous arrive aussi tout le temps. Alors aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il n'y a plus d'inspection du travail. Il y aura bientôt plus de salariés pour protéger les autres et défendre les autres. Qu'est-ce qui va rester? Rien. On va démonter au fur et à mesure toutes les entreprises françaises et mettre tous les gens dans des contrats précaires et puis faire ce qu'ils veulent. Ouais. Et là, nous, bien sûr qu'on défend pour l'emploi. Enfin, moi, je suis désolé, mais si vous voulez un service public de qualité, alors tant à la SNCF que dans les hôpitaux, qu'à partout, il faut embaucher au lieu de réduire les effectifs. Les fonctionnaires, on n'arrête pas de critiquer les fonctionnaires, mais les fonctionnaires, c'est pas des gens qui sont payés à rien faire. C'est qu'il y a vraiment du boulot. On est bien content aujourd'hui d'aller dans un hôpital et d'avoir des gens pour nous soigner. Ah oui, mais c'est tout le contraire. Aujourd'hui, vous allez à l'hôpital et puis il y a de moins en moins de soignants. Donc c'est pareil pour nous. Au fret, c'est pareil. Au fret, 6 500. Alors que normalement, tous les camions en France qui traversent la France devraient être sur un train. Ouais. S'il y avait une vraie politique environnementale, mais il n'y a même pas. Ils nous parlent de la COP21, ils veulent baisser les émissions de 20%, mais ils ont qu'à commencer à mettre les camions qui traversent la France sur un train. Ouais. Un train électrique.
Voilà. Ok, je te remercie Bruno, c'était vraiment très enrichissant. On va continuer à soutenir la camarade Laura, on va continuer à soutenir les syndicalistes partout qui se battent souvent le dos au mur, hein, et halte à la répression syndicale partout. Allez, salut.
Merci à toi, à bientôt.
Oui, voilà, on a compris maintenant. Les intérimaires font rouler les sous-traitants, qui font rouler le nucléaire, qui font rouler les trains en mettant de l'électricité dedans. Mais c'est les cheminots qui font rouler les trains au final. Tout comme c'est les êtres humains qui font rouler le nucléaire. Et oui, on est bien obligé de constater que les humains sont pas respectés au travail. Hein, les conditions qui se dégradent, Et quand il y a un inspecteur qui gueule, il est muselé. Et quand il y a un lanceur d'alerte qui l'ouvre, il est réprimé. Et quand le syndicaliste fait son boulot, bah, il est sanctionné. Décidément, ça se passe vraiment pas bien. Bon, on pourrait dire, on était en Hollande. Ces deux événements que vous avez entendus, c'est l'un, c'est les états généraux de la santé au travail en 2016, et fin 2016, le procès de Laura Pfeiffer. On pourrait se dire, depuis qu'on est en Macronie, on n'est plus en Hollande, tout va mieux. Bon, comment dire? C'est pas ça, hein? Non, c'est pas ça. Eh oui, la Macronie, c'est pire que la Hollande. Vous reprendrez bien du fromage, hein? On va avoir un peu de mal à s'en sortir si on relève pas un peu la tête. Donc, les coups de gueule qui suivent ont été enregistrés par des fonctionnaires et qui sont bien en Macronie. Il n'y a pas de doute. Alors, voilà le quiz. Est-ce que vous... Donc, je vous informe que cette fois-ci, dans le gouvernement, il n'y a pas de ministère de la fonction publique, du tout. La direction générale de la fonction publique est rattachée à la comptabilité et au budget. Quel est votre sentiment là-dessus ?
Et malheureusement, oui, on a appris ça hier. C'est un ministère de la comptabilité publique, c'est-à-dire que les agents du service public sont considérés comme des lignes de compte. Et ça montre bien tout le mépris qu'a ce gouvernement pour la fonction publique, pour le service public, pour le droit des usagers. Et c'est très révélateur d'un gouvernement qui est en fait le gouvernement d'union des libéraux.
C'est le mot de la fin. Merci.
Merci.
On sait bien que pour nous, c'est bientôt la mort. Hein. On nous supprime de plus en plus et c'est malheureusement la fin presque. Mais nous sommes encore là et nous avons l'intention de lutter jusqu'au bout.
Une approche bien financière de l'administration et de la fonction publique et des services de l'État.
Bah oui, c'est un ministre de l'action publique qui est relié au compte public, donc pour nous c'est un très mauvais signe, hein, puisque c'est évidemment l'approche comptable de la fonction publique, hein, on va raisonner de façon comptable en termes de coûts que ça va représenter, indépendamment des missions qui sont raisonnablement exercées. Et puis un dernier mot, hein, il y a une véritable provocation là du gouvernement qui a été de nommer une DRH comme ministre du Travail, hein, quelqu'un qui est issu directement des milieux patronaux, ex-DRH de Danone, de Dassault Industrie, Dassault Aviation, je ne sais plus, et actuelle directrice générale de France Business. Donc nommer une patronne à la tête de la direction de l'inspection du travail, bah, c'est une vraie provocation. Au-delà de ça, ça montre jusqu'au bout dans ces ordonnances de casse du Code du Travail. Et nous, on s'inscrit dans ce mouvement puisque l'inspection du travail, le ministère du Travail est au service des salariés et reste un des derniers recours auxquels les salariés peuvent faire appel pour faire valoir leurs droits dans les entreprises.
Ah, moi, personnellement, c'est de prendre le bitume et mes baskets. Hein. Ça, il n'y a pas. De toute façon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la dernière... Enfin, au niveau des lois contre la précarité, et j'entends bien, hein, parce que au-delà de tout gouvernement... Hein, et d'orientation politique, c'est aujourd'hui sauver les gens de la précarité et de la misère. Alors oui, Monsieur Macron a décidé de ne pas nous accorder un ministre de la fonction publique. On trouvera les moyens de faire appliquer des choses et surtout défendre nos droits, ministre ou pas. D'ailleurs, j'ai envie de dire, mais en tout cas par le combat et la lutte, ça on lâchera pas. Et s'il faut être encore plus dans la rue et manifester, on continuera. Pour gagner des droits.
Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tout.
Il est plus petit que le jardin de ma tante. De costume deux fois.
Et voilà, donc oui, bien sûr, merci patron de nous faire travailler dans ces conditions, jusqu'au jour d'ailleurs où nous serons tous patrons, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de patrons, parce que ça revient au même. Et oui, pour qu'il y ait des patrons, il faut qu'il y ait beaucoup de travailleurs et de travailleuses. Et y compris, si on veut avoir des patrons joyeux, avec une force de travail joyeuse qui lui chante merci patron, il faut aussi des fonctionnaires. Et donc tout ça c'est en un. Il nous faut des fonctionnaires et des trains pour faire rouler les fonctionnaires et du nucléaire pour faire rouler les trains et des sous-traitants pour faire rouler le nucléaire et des intérimaires pour faire rouler les sous-traitants. Donc tout ce monde-là, ça se tient. Par contre, ce dont on n'a pas besoin, c'est les patrons, c'est les patrons, c'est les patrons. Eh oui. C'est pourquoi nous allons maintenant écouter la grève. Le son de la grève, comme en 68. Voilà, on va aller sur quelques piquets de grève qui ont émaillé l'année 2017 pour écouter le son de la rue. Bon, il semblerait qu'on ait un petit problème technique, on est en train d'essayer de régler ça. Décidément, aujourd'hui, rien ne va. Mais je crois que ça va bientôt se régler, ça me semble. En attendant, bah oui, voilà pourquoi on avait essayé de rassembler ce petit pot-pourri de lutte qui va bientôt apparemment se mettre en route.
Mais il y a des bagarres en ce moment en cours dans le secteur du nucléaire là.
Alors oui, il y a actuellement des salariés en lutte sur le site de Cruas dans l'Ardèche, Cruas Nice, et le site de Penly. Donc ce sont des salariés de l'entreprise Nuvia Support, c'est le groupe Vinci. Et nos collègues aujourd'hui font des activités de logistique. Alors c'est le mot moderne parce qu'avant ça s'appelait la servitude nucléaire. Et donc nos copains aujourd'hui et collègues qui résistent dénoncent la convention collective Syntec qui leur est appliquée dans leurs activités.
Juste Syntec, c'est pas une convention collective des ouvriers de la métallurgie, hein?
Pas du tout. Alors c'est pour les bureaux d'études et les ingénieurs. Et donc par contre nous, les activités que nous faisons sur le site EDF en particulier, lors des arrêts tranches, c'est des travaux de nuit, des travaux le week-end, voire des jours fériés. Et donc là, c'est au bon vouloir de l'employeur de majorer ou pas les heures que peuvent faire les salariés. Donc cette convention n'est pas du tout adaptée aujourd'hui à cette industrie. Et on n'en veut pas. Et nos copains, nos collègues résistent. Et je suis très fier d'eux.
Ouais, très fier d'eux. Mais c'est vrai qu'ils ont raison. La convention Syntec, c'est une convention qui est systématiquement détournée. Et ça, c'est l'inspecteur du travail qui parle. On sait très bien qu'elle est utilisée dans toutes sortes de secteurs parce qu'elle est extrêmement flexible.
C'est voilà, donc oui, c'est la flexibilité, c'est du dumping. Alors c'est clair et net que les entreprises aujourd'hui obtiennent les contrats sur les sites EDF, mais derrière on méprise des métiers, on méprise des salariés, et donc à partir de là, on méprise pas les gens, c'est pas acceptable. Il faut que la machine soit en état, bien évidemment, il faut que la machine tourne, mais ce sont les salariés qui sont les garants de la sécurité et de la sûreté. Jusqu'au jour où, à force de mépriser les gens, on va peut-être dire, ah ben maintenant, je me moque du résultat de mon travail. Ouais. Et nous n'avons pas le droit de le faire.
Ouais. Mais les gens en arrivent à ça, quoi. Si...
Oui, aujourd'hui, c'est malheureusement des propos que j'entends fréquemment à la machine à café, dans les vestiaires, des copains qui sont déçus de leur situation, méprisés par leur direction, des métiers banalisés.
Tu dirais qu'ils sont en grève aujourd'hui parce qu'ils veulent faire leur boulot.
Exactement, nous voulons travailler dans de bonnes conditions et être connus pour le travail que nous exécutons. Le courant électrique, l'énergie, c'est un besoin vital pour l'ensemble de tout citoyen, tout humain. Et donc le nucléaire, on ne peut pas le banaliser. Quoi.
Okay. Bah, bon courage à tous les copains de Cruas et de Penly.
Résistance.
C'est nous qu'on gagne à la fin.
Exactement.
On a plus d'expérience.
On va pas pleurer pour la gérante, mais ils ont des situations aussi qui sont très merdiques, quoi. Et on parle même pas des produits, d'où ils viennent, comment ils sont fabriqués. On pourrait en dire pas mal.
Mais est-ce que vous avez une visibilité justement sur les comptes, toi, en tant que délégué du personnel?
Non. On n'a pas accès.
On n'a pas accès aux comptes. On connaît pas le montant du chiffre d'affaires. Tout ça, c'est secret.
Et on est censé de le savoir.
Tout ça, elle le dit pas, quoi.
Ah, vous êtes tous en grève.
100%. Je vous invite à faire un tour dans le magasin, vous verrez l'état dont il se trouve à l'heure actuelle. D'ailleurs, même les clients, ils n'ont même pas envie de rentrer pour faire leurs courses parce que ça ressemble à rien.
Et quel moyen elle a utilisé jusqu'ici justement pour casser la grève?
Elle a fait venir ses parents qui nous laissent penser, même c'est pas penser, c'est la réalité, c'est un travail dissimulé. À la demande de l'inspecteur du travail, il faut que ses parents cessent immédiatement. D'ailleurs, hier, ils sont partis avec leur chien.
Elle a utilisé, je pense, des intérimaires. La seule arme des travailleurs, c'est la grève. Donc nous continuons la grève. Mais nous voyons, c'est-à-dire l'employeur de son côté est en train de creuser son trou. Parce que si le magasin ne fonctionne pas, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires ne fonctionne pas, c'est-à-dire que l'entreprise va être déficitaire. Il ne faudra pas nous expliquer après à nous que l'entreprise coule. Si l'entreprise coule, c'est de la faute des dirigeants.
Si on faisait l'inverse, imaginez que la gérante
fasse la grève.
Fasse la grève. Donc, le bois, tu n'avais pas besoin de faire grève, tu ne travailles pas, mais juste la gérante.
La gérante est...
Comment est-on
beaucoup mieux. Il va tourner beaucoup mieux.
C'est le personnel expérimenté.
On a plus d'expérience que les gérants.
Ah, on a tenu.
Voilà, on a 14 ans d'expérience. Elle vient d'arriver. Elle n'a même pas fait la formation pour dans le commerce. Mais il faut un gérant quand même. Voilà, pour faire la paye, pour faire... Voilà. Mais on s'en sort tout seul.
Ok, donc ça c'était notre petite séquence à la fois chez les sous-traitants qui font rouler, enfin bon on va pas continuer, et puis chez ceux qui font rouler les marchés, les petits marchés, les petits commerces, et oui c'est aussi des salariés, donc tout ce monde-là est en grève, et on avait parlé de la fonction publique, on va voir bientôt là tout de suite comment est-ce que la fonction publique aussi, elle se met en grève et en mouvement. Les séquences qui suivent sont issues d'une lutte de solidarité entre les territoriaux de Bobigny, l'inspection du travail et les sans-papiers qui s'est déroulée tout le long d'une journée avec des multiples actions et occupations.
Alors, avec Sabrina des territoriaux de Bobigny, personnel des écoles, nous sommes en grève depuis lundi pour avoir un rendez-vous avec notre employeur sur le dialogue social, les difficultés que l'on rencontre, beaucoup de précarité de contractuels depuis l'arrivée de notre employeur, Monsieur De Paoli, maire de Bobigny, et qui refuse tout dialogue. Voilà. Alors en plus des précaires, des contrats, souvent des femmes familles monoparentales avec sans avenir et surtout sans discussion aucune sur leur devenir, quoi. On se retrouve dans des groupes scolaires. Il y a 3 ans de ça, on était à peu près des équipes de 5-6 selon le groupe scolaire en étant titulaire. Aujourd'hui, ça s'est inversé. En 3 ans de temps, on se retrouve avec un groupe scolaire où il y a un, voire deux titulaires sur place. Le reste de l'équipe, ça ne reste que des précaires. Voilà, sans aucune formation, bien sûr, pas tout à fait les mêmes droits. Pas du tout les mêmes droits, d'ailleurs. En tout cas, depuis décembre, on a opté, nous, élus des CT, des organisations syndicales, et surtout élus des personnels. 4 postes sur notre secteur depuis décembre. On aurait pu sortir 4, voire 5 agents de la précarité. Et c'est vraiment un secteur où il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de misère sociale. Et il est sourd face à ça, notre employeur. Enfin, cette municipalité ne veut rien entendre. Voilà.
Donc vous êtes dans votre propre lutte là en ce moment et vous êtes quand même venu vous déplacer ici. Pourquoi, comment ça vous parle ce qui se passe en ce moment là à l'inspection du travail?
Mais c'est exactement la même chose. On voit ces affiches, elles parlent d'elles-mêmes. Un agent est en noir. Alors on peut l'interpréter en deuil ou dans la souffrance, mais en tout cas c'est comme ça que je le vois. Juste à côté, un autre agent. Un autre individu où il y a une croix rouge dessus, c'est-à-dire 1 sur 2 non replacés, ils sont dans des conditions de travail vraiment à pousser les personnels à bout. Donc bien sûr on se greffe à ça puisqu'on est exactement, alors même si c'est pas tout à fait les mêmes secteurs, dans les mêmes conditions. Voilà, de précarité et de souffrance au travail. Mais bien sûr qu'on se grève. Et si on avait cette possibilité de rassembler l'ensemble, parce que nous, on est ville de Bobigny, mais à Pantin, c'est pareil, au Blanc-Ménil, c'est pareil. Et si on pouvait rejoindre toutes ces forces, vous verrez qu'on ne s'arrêterait pas à 70 grévistes sur notre secteur. On est un secteur à 209 agents, que de la précarité. Et moi, je tiens à dire les chiffres, parce que ce que sort notre employeur, c'est vraiment que des mensonges.
Toujours dans les locaux donc de la directe. Maintenant, je vais passer la parole à un représentant des collectifs sans papiers qui sont venus s'associer à la lutte des inspecteurs et contrôleurs du travail. Présente-toi. Bonjour.
Bonjour, moi c'est Diallo Mamadou, je suis délégué du collectif des travailleurs sans papiers de Vitry-sur-Seine. Donc, on a répondu aujourd'hui à l'appel de nos camarades inspecteurs du travail. Notamment ce qui concerne la suppression de postes au sein de l'inspection du travail. Donc on se sent concerné pour ces suppressions. Nous sommes des travailleurs, donc l'inspection du travail assure une protection pour nous, pour l'ensemble des travailleurs et surtout pour les travailleurs sans papier. S'il y a moins de suppressions, s'il y a moins de postes, cela veut dire qu'il y a moins de vérifications, moins d'inspections, et c'est le travail au noir qui va exploser. Et c'est les travailleurs sans papier qui vont payer les frais, parce que c'est les plus précaires, c'est les gens qui travaillent dans le bâtiment, dans la restauration, dans les boulots les plus pénibles. Donc ils ont besoin d'être vraiment protégés plus que les autres. C'est des endroits où on rencontre plus de pénibilité, plus de souffrance sur le lieu de travail.
Donc, tu n'es pas venu tout seul en fait. Il y a des camarades de ton collectif et d'autres collectifs, je crois, qui sont venus aujourd'hui pour nous soutenir.
Nous sommes venus, le collectif de Vitry, le collectif du 93, il y a droit de femmes aussi. Voilà, donc dans le 94, on était à peu près une vingtaine, ainsi que les autres collectifs, quoi. Voilà, donc les camarades sont au courant, ils sont motivés. Et s'il y a quelque chose après, on compte être plus nombreux. Ouais.
Ça, c'est cool, je te remercie. Effectivement, c'est le début d'un travail de pression. Alors, c'est vrai que l'inspection du travail, depuis deux ans, là, mène une campagne avec les travailleurs sans papier. On a appris des choses sur l'action qu'on est en train d'essayer de mettre un peu en valeur. On a appris des choses auprès de vous. Donc, on est très content en plus que vous voyez un peu nous battre aussi pour nos droits, quoi. Hein. Voilà, c'était un peu ça l'idée.
Oui, moi je peux dire que c'est la concordance des luttes. Hein. On doit se donner la main et se battre face à ces gens qui veulent tout retirer aux travailleurs. Voilà, donc s'affirmer et revendiquer nos droits. Donc nous sommes dans la même lutte. Je pense qu'il n'y a pas à remercier ici les collectifs. C'est notre lutte, la lutte des inspecteurs, c'est la lutte des sans-papiers. La lutte des sans-papiers, c'est la lutte des inspecteurs.
Ben merci, c'est le mot de la fin. Je te remercie beaucoup. Bon, eh ben on a fait un peu un petit tour d'horizon, hein? Parce que pendant que les assistantes scolaires s'occupent des enfants, des cheminots, qui vont faire rouler les fonctionnaires vers les centrales nucléaires où ils seront soutenus par des sous-traitants, chez lesquels travaillent des intérimaires, dont certains sont sans papier, et que tout ce monde-là tourne et tourne au plus grand service de notre ennemi, le capital, qu'est-ce qu'on peut faire? On a vu, on fait grève, mais est-ce qu'il faut faire grève chacun de son côté? Rêvons un peu. Je vais vous faire une proposition. Mettons que les travailleurs temporaires se mettent à soutenir les fonctionnaires, qui soutiennent les sans-papiers, qui soutiennent les inspecteurs du travail, qui défendent les syndicalistes, qui défendent les sous-traitants, qui soutiennent les professeurs, qui soutiennent les infirmières, qui soutiennent les cheminots, qui font grève pour défendre les travailleurs temporaires. On a fait le tour. Il y a une anecdote que je vais vous raconter, c'est une anecdote de guerre. Bon, c'est pas très funky, une anecdote de guerre, surtout sur une radio comme AFPP, on n'est pas très militariste et tout, quoi. Mais quand même, elle est assez instructive. Bon, voilà. C'était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, l'Allemagne nazie, c'était plus grand-chose, hein. Ça zoomait de partout. Même les Russes, ils avaient envahi le ciel allemand. Pourtant, ils avaient un gros problème. Un très gros problème. Les Allemands avaient mis au point un avion à réacteur nucléaire. Le Messerschmitt 200, je sais plus quoi. Et ce truc-là était une vraie terreur. Et les Allemands, ils avaient tout mis à l'Est. Pour les Russes. Pour arrêter les Russes. Et qu'est-ce que tu pouvais faire, ça? C'est un double réacteur nucléaire, alors que toi, t'étais toujours dans ton avion à hélice, là. Alors certes, ils allaient vite, hein, les Russes, ils avaient mis au point de la bonne cam. Mais quand même, ça faisait pas l'affaire. Ben les Russes, ils ont résolu le problème comme ils ont toujours résolu le problème, notamment les Soviétiques. Certes, ils ont des nettement meilleurs avions que nous, mais nous, on est nombreux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se couvrir les uns les autres. Et ils avaient un petit chasseur, le LAG, un petit chasseur très agile et très rapide. Bon, qui faisait toujours pas le point hein, face au gros monstre en face, mais ils se sont dit, et si on se couvrait tous mutuellement les uns les autres? Alors, ils ont décidé de se couvrir les uns les autres. Ils se sont mis à adopter une nouvelle formation. Quand ils voyaient arriver un énorme chasseur allemand à double réacteur pour leur niquer la gueule, ils se mettaient en cercle, les uns derrière les autres, dans un cercle parfait, tournant à très grande vitesse. Et ben, vous savez quoi? De quelque côté que l'Allemand faisait, de quelque côté que son attaque portait, il se retrouvait avec un avion devant, parfois en face, et au moins un avion derrière. Et ça, c'était la parade qu'ils ont trouvé les Russes contre ces très gros, très méchants avions allemands à double réacteur. Et ben peut-être que je me dis, après tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, la parade, c'est tous de se couvrir les uns les autres. Et que si on se couvre suffisamment nombreux et qu'on arrive à boucler le cercle, on sera tous en train de se couvrir. Et là, le patronat, avec ses gros avions à réaction, il pourra rien faire. C'était juste une idée comme ça, hein. On peut travailler longtemps comme ça. Mais à écouter un peu ce que les salariés d'un côté et de l'autre côté disent sur leurs conditions de travail, disent sur leur vie en commun, disent aussi sur leur manière de se bagarrer et de lutter, eh ben, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'on essaie de faire quand même du bon boulot dans cette émission. Parce que c'est ce qu'on essaie de faire. À chaque fois qu'on vient ici, faire parler les gens sur leur vie au travail pour savoir comment s'en libérer du travail. De l'intérieur, de l'extérieur, de toutes les manières possibles et imaginables. En résistant, en résistant, en résistant toujours. Et en apprenant aussi, petit à petit, en se rencontrant les uns les autres, à se couvrir les uns les autres. Parce que c'est comme ça qu'on arrivera à tenir à l'écart les gros méchants avions allemands. Hein? Les gros méchants avions allemands. Eh ben, on n'a pas à en avoir peur. Si on se couvre bien, on emportera la victoire. Parce que là, en attendant, on est en train de bouffer une soupe dégueulasse. Elle est faite de nucléaire. Elle est faite de précarité. Elle est faite d'austérité. Elle est faite de services publics qui partent en couille. Elle est faite de chômeurs et de chômeuses qui trouvent pas de boulot alors qu'il y a tant de choses à faire dans cette société. Voilà. C'est ça la soupe qu'on nous fait bouffer. Et c'est une soupe qui est dégueulasse. Elle est infecte. On le sait bien. Elle sent la pollution. Elle sent la crevure. Elle sent les poissons morts dans les océans. Elle sent les abeilles qui sont en train de crever. C'est ça qu'elle sent, leur soupe, là. Elle est vraiment pourrie. Il y a même des abeilles mortes dedans, putain! Ah non. Ça donne vraiment envie de faire une seule chose, pas vrai? Une seule chose. Commencer à se couvrir les uns les autres pour enfin, foutre leur soupe et leur bol et leur putain d'avion allemand par terre. Parce que leur soupe, on n'en veut pas. Je parle à ce mange la comète, les bouillons, je te suis, y'a pas de sel.